CFM, le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
Le MAG du pays Midi-Quercy, une émission soutenue par le programme européen Leader et réalisée à CFM Caylus.
Et un MAG consacré à la sécurité alimentaire en pays Midi-Quercy avec un reportage de Marie-Agnès Brandy, la chargée de mission alimentation circuit court du PETR, qui interviewe le locavore Stéphane Linou. Ce sera en deuxième partie d'édition. Avant ça, parlons transport, parlons mobilité. Et dans ce MAG du pays Midi-Quercy, on parle mobilité avec la chargée de mission mobilité du PETR, Lisa Galtier. Bonjour Lisa.
Bonjour.
Alors vous avez une mission de conseil un petit peu auprès des communautés de communes, des projets collectifs qui peuvent être montés sur le territoire sur la mobilité, mais pas que, hein, mais c'est déjà une partie de vos missions. Un diagnostic peut-être déjà sur le pays, la place de la voiture est prépondérante. Hein.
Oui, tout à fait. C'est vraiment la mobilité, elle est aujourd'hui au cœur un peu des enjeux du territoire et un défi pour le PETR Midi-Quercy, notamment pour l'impact environnemental que représentent les transports sur le territoire. Par exemple, le diagnostic du plan climat et énergie territoriale qui a été élaboré en 2017 identifie le secteur des transports comme la première source de consommation énergétique du territoire. Donc c'est un impact assez fort. Et aujourd'hui, il y a un impact aussi en plus économique, car le budget des transports impacte de plus en plus le budget des ménages et qui risque de créer aujourd'hui des inégalités sociales. Donc la mobilité, elle est aujourd'hui au cœur des préoccupations du territoire et des attentes des habitants.
Et vous essayez de trouver des alternatives à la voiture. Alors peut-être déjà par la mise en place d'une flotte de vélos électriques au pays, ça fait quelque temps déjà.
Oui. Le PETR a mis en place, donc, grâce au programme TEPCV, Territoire à énergie positive pour une croissance verte, donc depuis 2015. Grâce à ce programme, donc, le PETR a pu mettre à disposition des vélos à assistance électrique aux habitants et aux prestataires touristiques pour leurs déplacements de proximité ou de loisirs. Et donc, le PETR, donc, depuis 2015, met en place ce dispositif-là, ce service-là, et aujourd'hui qui est utilisé notamment sur la période estivale, qui est souvent utilisé par les habitants et quelques prestataires touristiques. Donc ça fait partie des premières actions que le PETR a développées en faveur des alternatives à la mobilité.
Et il y a aussi une conciergerie de la mobilité rurale qui se met en place.
Tout à fait. Du coup, le PETR donc a été lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt France Mobilité en mars 2019. Donc dans l'objectif de développer cette conciergerie. Donc le projet est surtout né d'une volonté pour le PETR d'améliorer les mobilités alternatives sur le territoire suite à l'élaboration du plan climat et des constats sur ce que l'impact environnemental que représentent les transports.
Alors les mobilités aussi alternatives à part le vélo, c'est quoi?
Alors en mobilité alternative, il y a tout ce qui est par exemple usage partagé de la voiture, ce qui est covoiturage, autopartage ou transport solidaire, mais aussi les mobilités actives, tout ce qui est vélo, marche à pied par exemple, ou transport en commun aussi, le train ou des navettes ou du transport en commun.
Et cette conciergerie de la mobilité rurale permettrait de tâter un peu le terrain.
Oui, et de développer différentes solutions en fait de mobilité, d'en développer plusieurs sur le territoire pour répondre aux besoins des habitants, notamment puisque le territoire fait face à un manque d'offres de mobilité qui crée une dépendance à la voiture individuelle. Et l'objectif, c'est vraiment, grâce à cette conciergerie, de développer différentes solutions qui soient adaptées à chaque besoin des habitants.
Alors, quoi comme par exemple, des exemples qui pourraient être mettre en place?
Alors, par exemple, on va mettre en place des actions pour apporter des conseils, des accompagnements à la mobilité des personnes. Donc, pour illustrer, le PETR a lancé un partenariat avec Montauban Service, qui est une association basée à Montauban, qui développe des actions d'accompagnement à la mobilité. Notamment, elle apporte des aides pour louer une voiture, un vélo ou un scooter. Elle apporte aussi des accompagnements pour apprendre le vocabulaire du code de la route. Elle apporte aussi des conseils pour aider les personnes à réparer leur voiture. Donc voilà, le partenariat qui va se lancer avec Montauban Service va permettre de développer quelques permanences sur tout le territoire pour favoriser donc des actions en faveur de l'accompagnement à la mobilité pour les habitants. Il y a d'autres actions qui visent à promouvoir la mobilité déjà présente sur le territoire, notamment la gestion des flottes de vélos électriques et la relance du dispositif d'autostop organisé qui est mis en place depuis plusieurs années sur le territoire.
Le réseau Pousse.
Les réseaux Pousse, voilà, tout à fait. Et l'objectif aussi va être de promouvoir d'autres alternatives, comme je le disais, de l'autopartage, de covoiturage, du transport solidaire. Cette conciergerie va aussi permettre de relancer un outil numérique qui avait été mis en place il y a quelques années, la plateforme Partage. Il recensait l'ensemble des offres de mobilité. Donc cette plateforme a été laissée un peu de côté et aujourd'hui, grâce à la conciergerie et l'AMI France Mobilité, le PETR souhaite relancer cet outil numérique qui va recenser donc toutes les offres et solutions de mobilité qui sera sur le territoire. Donc voilà, parmi les actions que la conciergerie va essayer de développer.
Et qui sont déjà en partie développées du coup.
Une partie voilà est développée déjà sur notamment la mise à disposition des vélos à assistance électrique et le dispositif Réseau Pousse. Donc ces actions-là sont déjà mises en place. Les permanences sont en cours avec Montauban Service. Elles vont se développer en fin d'année et toute l'année 2021. Et ensuite, tout au long de l'année 2021, vont se mettre en place donc différentes solutions de mobilité, comme du covoiturage ou de l'autopartage, ainsi que la plateforme de mobilité qui recense l'ensemble des solutions du territoire.
Rien que ça. On peut retrouver vos coordonnées, Lisa, ne serait-ce que pour vous contacter pour voir pour un vélo électrique prêté par le PETR. Pour vous contacter, donc sur il y a vos coordonnées sur le site du PETR Medicarcy. Vous êtes basé à Nègrepelisse. Et est-ce qu'on peut vous contacter si on a, par exemple, un collectif qui souhaite aménager une voie cyclable?
Oui, tout à fait. Le PETR est là pour accompagner et appuyer des projets liés aux mobilités, et elle appuie notamment des projets qui sont notamment portés par des associations ou n'importe quel acteur local. Le PETR est là pour accompagner et appuyer certains projets.
Lisa Galtier, la chargée de mission mobilité du PETR Medicarcy, un grand merci et à très bientôt, je crois, parce qu'il y a plein de choses qui vont se mettre en place grâce à cette conciergerie de la mobilité rurale. Merci beaucoup, Lisa.
Merci à vous.
Et la suite du mag après la musique, à propos de sécurité alimentaire en pays Medicarcy, une interview du locavore Stéphane Lineau dans les circuits courts. Bonjour.
Deus sabe a hora, Deus sabe quando vai voltar. A esperança lhe botou no contra-cheque, casa própria, sonho de consumo que ele vai comprar. Sábado à noite ele quer sair na night, 63 ele é bebida, ele é fiel. Academia na orelha, é limão com mel, esteira queima o excesso com medo de ir pro céu.
Je suis tatouée comme ça, là.
De plus, j'ai arrêté les décolletés.
Voilà.
Corre do problema, corre da dor. Ai, 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 eu. Corre do problema, corre da dor.
CFM, le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
Les circuits courts, bonjour. Aujourd'hui, je suis venue voir Stéphane Lineau. Donc Stéphane Lineau est intervenu à Saint-Antonin début octobre pour une conférence qui était organisée par le CPIE et par le Fab Lab sur la résilience et la sécurité alimentaire sur le territoire du pays Midi-Quercy. Donc bonjour Stéphane Lineau.
Et bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes?
Alors, je suis originaire de Beauregard, dans le Lot, juste à quelques kilomètres donc de Caylus. Je suis conseiller en développement local, consultant en gestion des risques, et j'ai été élu conseiller général dans le Lot et conseiller municipal. Et je suis pionnier du mouvement locavore en France. Donc en 2008, j'avais fait le pari de ne me nourrir qu'avec des produits issus d'un rayon de 150 km autour de mon domicile, donc pas d'un an, plus de café, plus de chocolat, tout ça, plus de bananes. C'était en fait pour alerter sur notre faible degré de résilience alimentaire, et je m'étais mis en scène justement pour faire comprendre au plus grand nombre, aux élus, aux administrations, aux habitants, que s'il y avait par exemple, et ça c'était en 2008, une pandémie grippale qui bloquait les chaînes d'approvisionnement, c'est-à-dire que les transports soient bloqués, combien de temps on tiendrait avec le peu que l'on produit en tant qu'individu, avec le peu que l'on stocke, avec le peu que l'on transforme, et avec le faible nombre d'agriculteurs qu'il y a autour de nous, et ceux qui restent sont extrêmement spécialisés, sachant qu'il n'y a pas non plus de stock alimentaire dans les collectivités locales, et qu'il n'y a pas non plus de stock alimentaire stratégique d'État. Donc voilà, et en plus avec des populations non préparées et devenues intolérantes à la frustration, en fait on serait à trois repas de se taper dessus. Donc pour moi, hein, je n'ai rien inventé, j'ai tout juste dépoussiéré ce que j'appelle le plus vieux sujet du monde, c'est-à-dire le lien entre alimentation et sécurité. Voilà.
À un moment donné dans votre vie, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous réfléchissiez à ce qui était sécurité alimentaire ?
Alors en fait cette question elle me fait toujours sourire parce que c'est comme si c'était moi qui avais un problème, mais la question c'est comment ça se fait que le plus vieux sujet du monde, c'est-à-dire celui qui préoccupait tout le monde de Cro-Magnon même avant, hein, jusque dans les années 60, comment ça se fait que tout le monde l'a oublié ? Comment ça se fait que nous nous sommes transformés quelque part en EHPAD à ciel ouvert, nos territoires, c'est-à-dire que nous sommes devenu autonome sur rien. Lorsque des personnes rentrent dans des EHPAD, c'est jamais de gaieté de cœur, c'est-à-dire elles se retrouvent non autonomes sur plusieurs choses. Mais là, c'est dans la joie et dans la bonne humeur que nos territoires se sont retrouvés sous perfusion alimentaire, c'est-à-dire que on a des territoires qui sont à peu près avec 2% d'autonomie alimentaire, c'est-à-dire 98% de ce que l'on consomme est importé, c'est-à-dire d'autres pays ou d'autres régions, mais dans le même temps, 97% de ce qui est produit sur le territoire est exporté ailleurs. Donc en fait, ça fait des camions, donc des vulnérabilités dans les deux sens. Donc en fait, géographe de formation, plus le développement local, je me suis dit, mais combien de temps ça peut tenir ? Est-ce que quelque part, il n'y a pas des risques sur ces perfusions ? Au mois de, enfin, le 1er janvier 2000, je m'engage chez les sapeurs-pompiers volontaires, donc je fais connaissance quelque part avec le monde des risques. J'ai installé également des candidats, enfin des paysans également, donc je travaillais dans le milieu agricole, et en étant aussi conseil auprès d'élus, je suis rentré dans le monde quelque part de la gouvernance. Donc le monde de la production, le monde de la sécurité et le monde de la gouvernance, et à chaque fois je me suis rendu compte que chaque monde est dans ces logiques-là, mais aucun monde dans les codes des autres. Et là je me dis, mais si jamais il y avait un pépin, c'est-à-dire par exemple une cyberattaque sur la chaîne logistique, ou des blocages ou autre, on l'a vu pendant les Gilets jaunes, à La Réunion, il y a eu des émeutes de suite. Est-ce que ces mondes-là sont assez entraînés pour communiquer entre eux, et est-ce que quelque part ça serait pas en fait le moment d'alerter, mais également de proposer des choses comme ce que l'on peut faire à l'échelle de chaque territoire à travers les plans alimentaires territoriaux. Mais avant cela, après avoir été conseiller général et être redevenu conseiller en développement local, j'ai voulu, mais un peu comme Colombo quand il connaît le meurtrier au début, mais son boulot c'est de trouver les preuves de ce qu'il sait déjà. Mais voilà, j'ai mené une enquête, mais bon, pas comme Colombo, parce que Colombo il est filou. Moi j'ai été très clair et très transparent sur la méthode, c'est-à-dire que j'ai fait un master spécialisé en gestion des risques sur les territoires, C'est-à-dire, j'ai mené une enquête dans des mondes justement qui se parlent très très peu. C'est-à-dire, est-ce que la production est pensée dans le monde de la sécurité, donc armée, intérieur, police municipale, tout ça?
Un peu comme la prévention des risques au niveau attentat ou au niveau inondation ou sur des risques naturels importants, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Est-ce que le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire est pris en compte dans le monde de la production? Et inversement, est-ce que dans le monde des risques, on réfléchit à la production? Et est-ce que dans le monde de la gouvernance, on comprend la question? Donc en fait, je me suis fait encadrer par un militaire, un ancien colonel de l'armée, un légionnaire, un directeur de l'aménagement du territoire, d'une grosse collectivité locale à Paris, et ça a intéressé la division du renseignement de la gendarmerie nationale, et ça a également intéressé le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris, et qui ont donc cautionné cette étude, et les résultats avec les témoignages sont édifiants. Mais en fait, c'est un impensé.
C'est une étude que vous avez finalisée quand?
Alors, je l'ai finalisée, je l'ai présentée devant un jury au mois de janvier 2019, et elle a eu le prix national au Forum des risques majeurs, donc délivré par le ministère de la Transition écologique et l'Institut des risques majeurs. Et les témoignages sont édifiants, ce sont des personnes qui sont encore en fonction et qui disent ben effectivement, on ne pense plus cette question-là, on pense que la question alimentaire est réglée. Donc c'est vrai qu'il pourrait y avoir des risques de troubles à l'ordre public, c'est-à-dire que le continuum sécurité-défense pourrait être impacté, par exemple, s'il y avait une cyberattaque sur la chaîne logistique, c'est-à-dire que toutes les forces de sécurité intérieure et forces de défense, seraient complètement débordées. Donc une de mes conclusions, c'est que la non-territorialisation de la production et de la consommation alimentaire, additionnée avec une impréparation des populations, c'est une question qui devrait être regardée avec les lunettes de la sécurité nationale et de la sécurité intérieure. Et d'ailleurs, une sénatrice de la Haute-Garonne, Françoise Laborde, qui faisait d'ailleurs partie du groupe présidé par le sénateur du Lot, Monsieur Requier, en a fait un projet de résolution, donc intitulé comme mon bouquin, c'est Résilience alimentaire et sécurité nationale. Donc elle l'a déposé et défendu l'année dernière. Et il n'a manqué que 16 voix pour que ce projet de résolution soit adopté. Et ce qui est d'extrêmement intéressant, c'est que le parti présidentiel, le groupe de sénateurs représentant le gouvernement, a reconnu que c'est un sujet, que les analyses et les propositions sont valables, et que la non-résilience alimentaire de nos territoires doit être regardée avec les lunettes de la sécurité intérieure, de la sécurité nationale. Et tout ça, validé également par le gouvernement. Donc, quelque part, je me dis que je n'ai pas vu fou, j'ai complètement vu juste, et arrive le Covid, quelques mois après, qui, quelque part, hélas, donne raison à mes craintes, et là il y a un énorme travail à faire, c'est-à-dire d'inclure le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire dans les plans communaux de sauvegarde. Et d'ailleurs le ministre de l'Intérieur lui-même avait reconnu, lorsque la sénatrice encore Laborde lui avait posé la question, la réponse est publique, que oui, effectivement, la probabilité est faible, mais le risque est majeur.
Vous nous racontez un petit peu cette histoire?
Alors là, on a commencé par courir après la nourriture lorsqu'on était chasseur-cueilleur. Ensuite, on s'est posé, on a inventé l'agriculture néolithique. Ensuite, on l'a sécurisé en groupe, c'est là qu'on a inventé les villages. Donc après avoir couru après cette nourriture, après l'avoir faite pousser autour de nous et après l'avoir sécurisée en groupe, maintenant, c'est elles qui viennent à nous. Sans que l'on s'intéresse et que l'on se questionne sur le comment et sur le jusqu'à quand. Et ce sur quoi était basée la légitimité politique des ancêtres des mers, c'était sur quatre sécurités. La sécurité extérieure, il fallait ériger et entretenir les remparts. La sécurité sanitaire, il fallait lutter contre les épidémies, mettre en place l'assainissement collectif, tout ça. La sécurité intérieure, donc l'ordre public, et la sécurité alimentaire.
Pourtant, on a l'impression que sur nos territoires qui sont très agricoles, on a suffisamment de quoi produire et se nourrir, mais alors ce serait pas complètement le cas maintenant.
Ben, c'est absolument pas le cas. Même nos territoires ruraux, sont approvisionnés par les mêmes circuits d'approvisionnement, de distribution.
Un problème de circuit beaucoup, alors, c'est ça, entre où est produite la nourriture et où elle est consommée?
Oui, en fait, et comme je l'ai démontré dans mon étude, et ça a été même confirmé par le ministère de l'Intérieur, approvisionnement alimentaire et production alimentaire, ce sont deux mondes qui ne se parlent pas.
Il y a beaucoup de transport, hein, surtout la nourriture circule énormément entre le lieu où, par exemple, naissent les animaux et le lieu où, finalement, ils sont abattus et redistribués.
Oui, alors, la nourriture dépend des transports, mais les conditions de la produire dépendent aussi des transports. Tant au niveau de la mécanisation, des engrais, de la main-d'œuvre, de la transformation, de tout, quoi. Donc, en fait, je suis pas pour revenir à la lampe à huile, mais quand même, il faut sortir de notre ébriété et de notre assistanat énergétique.
Oui. Et quelle solution, alors, finalement, on a pour pallier à ce problème de sécurité alimentaire? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse maintenant?
Alors, j'ai pas la science infuse, mais bon, ça fait 20 ans que je creuse un peu le sujet. À tous les niveaux, à mon avis, il y a une hybridation des modèles et des échelles. Pour commencer à former les paysans de demain, donc ils devront être accompagnés en termes de formation, faut déjà permettre qu'il y ait des espaces nourriciers, des jardins partagés, avec des encadrements techniques, des banques de semences, des semences locales un peu partout également, avec des outils, des cabanons, un encadrement également. Ça c'est pour des questions de sécurité micro-locale. Pour une question de sécurité territoriale, je pense que la commande publique, elle a un énorme rôle à jouer, c'est-à-dire que il pourrait y avoir au niveau des collectivités locales et à travers la restauration collective, une fabrication du talon qui nous manque beaucoup, c'est-à-dire donner aux producteurs une visibilité dans le temps sur les volumes et sur les prix pour justement qu'ils puissent rester productifs et présents sur le territoire pour des raisons de sécurité, et on le voit pendant le Covid.
Et puis je voudrais juste préciser qu'effectivement sur le territoire, ben, on a déjà eu une trentaine de pourcents d'agriculteurs en moins en 10 ans, et dans les 10 prochaines années, on attend 40% d'exploitants en moins. Donc effectivement, ça permettrait peut-être à des producteurs de se réinstaller avec une sécurité pour leur économie sur le territoire.
Oui, mais non, mais complètement, parce que là, on le voit pas arriver, ou du moins, on est encore sur des mythes de la gastronomie et tout ça, et que c'est éternel, c'est faux. Si on veut des exploitations agricoles encore debout dans 10 ans, il faut tout faire pour éviter qu'elles mettent la clé sous la porte dès maintenant, donc faut les faire travailler. Donc également pour avoir des producteurs locaux quand ça va mal, on l'a vu pendant le confinement, on était très content d'avoir des producteurs locaux à côté de chez nous. Pourquoi? Parce qu'il y avait le sentiment d'insécurité qui était là. Pour les avoir quand ça va mal, eh bien il faut les faire travailler quand ça va bien. Donc flécher la commande publique vers les producteurs locaux, c'est une question là aussi de sécurité. Le politique, il a également sa carte à jouer, il a surtout sa carte à jouer à refabriquer du talon et à commencer par l'alimentation. Pour moi, c'est le cheval de Troie idéal pour parler de la résilience globale de nos territoires. Il n'y a pas de ventre de droite, il n'y a pas de ventre de gauche. Et ça, n'importe qui peut le faire.
Donc on essaiera d'intégrer tous ces principes de sécurité alimentaire dans le projet alimentaire de territoire du pays Midi-Quercy, et effectivement ça appelle à une mobilisation à la fois des consommateurs, que ce soit des habitants ou les cantines, et à l'installation de nouveaux producteurs sur notre territoire, puisqu'il y a largement de quoi faire dans ce beau pays du pays Midi-Quercy. Merci Stéphane Ninou pour cette approche très très intéressante. Et puis alors, vous avez un livre, je crois là, qui est récemment sorti, qu'on peut trouver facilement. On peut le trouver où?
Alors c'est Résilience alimentaire et sécurité nationale. Donc vous pouvez le trouver, bon, en auto-édition, ou m'écrivez, je vous l'envoie. ou sur chez mon imprimeur, ou même à Caylus. Vous pouvez aller à Caylus là, chez le libraire, vous le trouverez. Et ce qui est aussi également d'assez pratique, on va dire, pour les collectivités locales, c'est à travers le droit individuel à la formation. Je peux venir former gratuitement les conseillers municipaux qui veulent s'intéresser, se lancer dans ces dans le plus vieux sujet du monde. Et là, c'est très très noble de refabriquer du talon autour de l'assiette.
Merci beaucoup Stéphanie, c'est très très intéressant. À bientôt.
Avec plaisir.
À propos de la sécurité alimentaire en pays Midi-Quercy, une interview de Marie-Agnès Brandy, la chargée d'émission alimentation circuit court du PETR, avec le locavore Stéphane Linou.
Le mag du pays Midi-Quercy, c'est tous les lundis à midi, rediffusion à 17h et le samedi à 18h, et en podcast sur cfmradio.fr.